On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je suis très heureux de vous apporter la parole de Dieu. Je remercie votre pasteur de me donner l'occasion, l'opportunité. Et je voulais partager quelque chose. Je voyais votre pasteur et à chaque fois que je vois votre pasteur, j'ai une photo à la maison. Une photo qui a 30 ans. 30 ans, Stéphane. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Et voilà, on est heureux de continuer à servir le Seigneur. On était dans une retraite spirituelle, je crois, c'était pas loin d'ici, oui. Voilà, on était jeunes, on avait des cheveux. Voilà, mais en tout cas, ce qui est important, c'est, d'ailleurs, ça va aller dans la pensée du... Ce qui est important, c'est de continuer à servir le Seigneur. D'ailleurs, ça va aller dans la pensée de ce que je voudrais partager. Et en réfléchissant, je me disais que la pensée que nous allons voir ensemble, à la fois, elle peut clôturer cette année, nous sommes dans les quelques jours de l'année 2017, et à la fois, elle peut nous projeter pour l'année 2018. C'est bien, hein? C'est pas mal, hein? Voilà. Et pour introduire, on va prendre ce verset dans le livre de l'Apocalypse. J'espère que vous n'avez pas peur, hein, quand on parle de l'Apocalypse. Et je pensais à ce verset pour introduire. Vous allez comprendre pourquoi on peut à la fois clôturer l'année et à la fois se projeter dans l'année 2018. Dans le chapitre 3, au verset 10, Jean dit ceci, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On sait dans quel contexte Jean écrit. Il écrit à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, elle correspond à l'église de la fin des temps. Elle correspond à l'église fidèle de la fin des temps. Vous savez que dans la fin des temps, il y aura ces deux églises qui seront en parallèle. D'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit et de faire la différence. L'église de Philadelphie, c'est l'église fidèle. Philadelphie signifie amour fraternel. Et ensuite, il y a l'église de la Odyssée, celle qui dira « je n'ai pas besoin... » J'ai besoin de personne, et le Seigneur nous dira, mais puisses-tu être froid ou bouillant, sache que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Par contre, il dira concernant cette Église, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y aura quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Jean le rappelle et il dit qu'il y aura une tentation terrible, une épreuve terrible. Hein, c'est ce qu'on a lu et on croit dans la parole de Dieu. Et Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24, il parle de la fin des temps et il dit qu'ils séduiront même s'il était possible, Matthieu 24, 24, c'est facile à retenir, ils séduiront même s'il était possible les élus. Donc le Seigneur prévient, là il dit mais... Il y aura quelque chose de terrible qui va se passer. Mais Dieu ne nous laisse pas comme cela, il nous donne la solution. Et la solution, elle est dans ce verset, quand il dit, « Mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Amen. Pour simplifier, « Parce que tu as persévéré, je te garderai. » Parce que tu as persévéré en moi, je te garderai. Le Seigneur ne garde pas tout le monde, hein. Il garde, vous êtes d'accord avec moi, il garde ceux qui persévéreront, qui persévéreront. Et je me dis, j'ai eu cette pensée qui m'est revenue à cœur pour vous, pour partager avec vous, et qui à la fois, eh bien c'est ce qu'on a fait tout au long de cette année 2017, amen, et à la fois c'est ce que nous allons faire pour l'année 2018, et même jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il dira « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. C'est celui qui ira jusqu'au bout, c'est celui qui ira jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, vous savez, il parle de ces moments difficiles où on sera traîné dans les tribunaux et il dira, mais ne vous inquiétez pas, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Père livrera son fils, les parents se soulèveront contre les enfants, le frère contre son frère. Vous serez haïs de tous, mais... celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Jésus le dit encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, et il dit ceci, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Gloire à Dieu. Alors, vous avez compris de quoi je voudrais simplement m'entretenir. Je voudrais m'entretenir sur quoi? Sur la persévérance. Hein? Amen. Je pensais à ce texte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, quand il dit « courons ». Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et là, l'auteur compare la vie chrétienne à une course. Et je relisais encore ce texte, cette pensée m'est revenue là, je relisais encore ce texte, et il me semble que dans la notion de ce verset, il n'y a pas... C'est une course de longue durée, c'est une course d'endurance, c'est une course de fond. La vie chrétienne n'est pas un record à battre, me semble, hein? Non? La vie chrétienne, ce n'est pas un record à battre. Voilà, je bats un record, après j'ai fini. Mais la vie chrétienne, c'est une course de long terme, jusqu'au bout. Ce qui fait aussi notre joie aux serviteurs de Dieu, c'est de voir que l'Église est là, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, on est là et on continue jusqu'au bout. Amen. Jusqu'à la fin. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne, jusqu'au bout. Hein. On peut mettre comme ça, comme image, un marathonien, je ne sais pas si hein, vous faites... On les voit courir, là. Hein. C'est une course d'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Je pensais à ce texte de Paul aux Galates... L'apôtre Paul le souligne dans Galates chapitre 3, verset 3. Ce sont des versets qu'on connaît bien quand il dit « Après avoir commencé par l'Esprit, Galates 3, 3, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» On peut bien commencer. On peut bien commencer. Et ce qu'il faut, c'est bien finir. Et là, les Galates, c'était des Gaulois, en fait. Hein, quand on regarde l'histoire, c'était des Gaulois qui avaient immigré dans l'actuelle Turquie. Ils avaient pris une région de l'actuelle Turquie, de l'Asie mineure, et ils avaient bien commencé. Et Paul leur dit, mais après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Dans ce même texte, je l'ai mis sur mes notes dans Galates chapitre 5, verset 7, il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Vous vous rappelez de ce verset ? Qui vous a arrêté ? Et qu'est-ce qu'il dira, la suite ? Un peu. Ah, ça va, il y en a qui se souviennent. Hein. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous avez préparé des gâteaux pour ce soir ? Faites attention de ne pas mettre trop de levain. Hein. Parce que quand on met trop de levain, après, ça fait un soufflet, c'est énorme. Hein. Si on se trompe dans la... Et vous savez que Jésus... Il dit, mais qui c'est qui vous a arrêté un peu de levain? Et le Seigneur dira, gardez-vous du levain. Jésus lui-même, il nous donne l'explication. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et à la fois, il y a deux notions là. Il y a cette hypocrisie de ces pharisiens. Et puis, il y a aussi l'orgueil. Le levain, c'est... Hein, on enfle et puis pouf, on éclate. Je pensais à ce passage aussi de Salomon dans l'Ancien Testament, un verset qui est un verset clé dans cette notion de la durée du temps et d'aller jusqu'à la fin. Salomon dit ceci, « Mieux vaut, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Que son commencement. C'est formidable ce baptême. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On commence bien et on doit finir bien avec le Seigneur, jusqu'à la fin. Amen. Je pensais aux enseignements de Jésus concernant la persévérance. Vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, Jésus parle de cette parabole des terrains avec la semence. On connaît tous cette parabole. La première semence, elle tombe le long du chemin. Elle tombe le long du chemin et la Bible dit que les oiseaux du ciel viennent et puis ils enlèvent cette semence. La deuxième semence, elle tombe dans les pierres et faute de racines, hein, quand le soleil se lève, ça, c'est important ça, on pourrait même parler rien que sur cette notion. Faute de racines, un chrétien non seulement c'est quelqu'un qui persévère, mais c'est quelqu'un qui est enraciné dans les choses de Dieu. Amen. Une herbe qui n'a pas de racines, vous la prenez, mais la mauvaise herbe, tiens, la mauvaise herbe, elle a du mal, hein, elle a du mal à être arrachée. Et il compare ce manque de racines à ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une épreuve, hop, il n'y a plus personne. Puis la troisième semence, c'est celle qui va tomber dans les épines, vous en souvenez ? Dans les épines, et les épines vont étouffer la semence. Et il dira que cette semence, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu, mais la séduction de ce monde, les richesses, etc., le matérialisme, non pas qu'il ne faut pas du matériel, il nous en faut du matériel, mais il ne faut pas que ce soit une priorité. Jésus dit que, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. » Amen, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il a été fidèle tout au long de cette année. Amen. Et si nous, on persévère dans ses voies, il sera fidèle. Et la quatrième semence, c'est celle qui tombe dans la bonne terre. Regardez, si vous voulez, on peut lire juste ce verset. Voilà, là, j'ai résumé simplement. Luc chapitre 8, verset 15. Ensuite, il dit ceci. « Ce qui est tombé dans la bonne terre. » Voilà, là, en face de moi, j'ai la bonne terre. Amen. Amen. La terre noire de Gap, là, hein, quand il a remué, là, c'est vrai, elle a une couleur que... La terre dans le midi, elle a une autre couleur, hein, mais elle est riche. Alors soyez riches pour le Seigneur. Amen. Et regardez ce qu'il dit au verset 15. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Là aussi, il y a cette notion de persévérance, cette notion de temps, cette notion de durée. Je porte du fruit avec persévérance. Ça veut dire, quel que soit mon âge, trop souvent, je priais encore hier soir là, chez mes enfants, et je disais, mais trop souvent, on entend mais place aux jeunes. Oui, place aux jeunes. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien. Je continue et je persévère. Amen. Je continue à porter du fruit. Même si je laisse la place aux jeunes, je continue à porter du fruit. Je dois porter du fruit jusqu'à la fin. C'est pour tout le monde la même chose. C'est pas d'y aller, c'est pour les autres maintenant. Non, 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 mon frère, ma sœur, jusqu'à la fin, il porte du fruit avec persévérance, dans le temps et dans l'espace. Amen. Jusqu'à la fin, je porte du fruit. J'ai rajouté ce verset qui m'est revenu aussi, c'est dans le psaume 52, au verset 10. David dit ceci, et là, il y a la notion de temps, la notion de durée, je ne sais pas s'il y a ces arbres, ouais, je pense qu'il doit en avoir. Psaume 52, verset 10, il dit ceci, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu, et Dieu nous compare à quoi, là ?» Comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Et le symbole de l'olivier, c'est, c'est la durée. Il y a des oliviers très vieux, millénaires, millénaires. Quand on dit de quelqu'un qu'il est vert, il est verdoyant. Hein? Ça veut dire qu'il est là et qu'il persévère, qu'il continue à servir Dieu dans la maison de Dieu. Je pensais à ce... J'ai regardé sur Internet et j'ai vu le plus vieil olivier de France. Allez, est-ce que quelqu'un peut me dire un petit peu une approche de l'âge de l'olivier? Il fait partie des plus vieux oliviers du monde. 2500 ans. Il ne se trouve pas à Gap, hein, parce qu'à Gap, il fait un peu froid. Hein. Il se trouve presque à la frontière italienne, à Roquebrune, Cap Martin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vous prenez map, vous cliquez avec satellite et vous arrivez à Cap Martin, là. Ça fait un cap. Et le plus vieil olivier de France, et qui fait partie des plus vieux oliviers du monde, se trouve à Cap Martin, à Roquebrune-Cap Martin, et il a 2500 ans. Ça nous parle de la durée, ça nous parle de la persévérance, d'aller jusqu'au bout. Je pensais à ce, pour mettre en parallèle simplement le psaume 1, il est comme un arbre planté, connaissez ce passage? Il est comme un arbre planté, il est planté, hein, faut être planté dans la maison de Dieu, hein. Amen. Il est planté, il est enraciné, il est fondé, il est scellé, il est collé. Amen. Il est planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Aïe, 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 le feuillage. Il y en a qui n'ont plus de feuilles. Hein. Je parle pour moi, là, hein. Le feuillage. Mais il porte du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. On peut faire des petits ravalements comme ça de façade. Nous, on n'a pas trop de produits, hein, les hommes. Bon, les femmes, elles en ont partout. On n'a plus de place pour nous. Hein. Mais il est planté, il porte du fruit en sa saison. Amen. Que Dieu nous aide à porter du fruit. Hein. Jusqu'à la fin. J'ai pris cet exemple simple qu'on connaît, d'ailleurs qui est lié aussi à la nativité. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 36, avec cette femme qui s'appelait Anne, fille de Phanuel, qui était âgée de 84 ans. Et la Bible nous dit qu'elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Et elle aussi, hein, Siméon a amené l'enfant Jésus, il a prophétisé sur Jésus, et Anne, elle était au bon endroit, au bon moment, elle était là, elle ne quittait pas le temple, et elle servait 84 ans, elle était restée mariée 7 ans, et ensuite elle a servi le Seigneur, hein, jusqu'à, je sais pas, bien, je sais, oui, on m'a dit qu'il y avait des personnes qui étaient plus âgées que Anne, hein, hein, que Dieu bénisse les aînés et que vous puissiez porter du fruit, hein, jusqu'à la fin. Jésus donne cet enseignement. Dans l'évangile de Luc, Jésus donne un autre enseignement. Il est un petit peu différent. Il me fait sourire parce que des fois, ça pourrait s'appliquer aussi à nous. Vous savez, dans Luc chapitre 22, quand les disciples étaient en chemin et ils discutaient. Ah là là, ils ne discutaient pas sur des choses spirituelles, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était savoir qui était le plus grand. Vous vous rappelez de ce passage, Luc chapitre 22, qui était le plus grand? Alors, je ne sais pas, il devait y avoir une polémique terrible là. Pierre devait dire, mais c'est moi, parce qu'à chaque fois que Jésus appelle, il m'appelle en premier, Pierre, Jacques et Jean, on les voit partout. Jean devait dire, non, mais moi, je suis l'apôtre de l'amour, c'est moi, etc. Enfin, et Jésus va leur répondre, il va leur parler. Et si vous voulez, on peut lire les propos du Seigneur, juste au verset 26. « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit. » Il va les remettre là, hein, au niveau là. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et c'est le verset 28 qui m'intéresse quand le Seigneur dit ceci. Et on va s'y arrêter. Il dit ceci. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je relisais ce verset, ce passage, hier. Je me disais, mais j'aurais pu prêcher que là-dessus. Tout à l'heure, il était question de la naissance. Mais quand on regarde la vie de Jésus, de la naissance à la mort, 33 ans et demi, du début jusqu'à la fin, ça a été que des épreuves. Ça a été que des épreuves. Dès le début, quand le roi Hérode a appris que le roi des Juifs venait de naître et que les mages sont venus pour l'adorer, il est entré dans une colère terrible. Il a fait massacrer, vous rappelez, l'ange est venu auprès de Marie, auprès de Joseph, ils ont dit de partir, d'aller en Égypte. Et ça a été tout autre, quand il est revenu, ça a été l'épreuve. Ça a été l'épreuve avec les religieux, ça a été l'épreuve même avec, disons-le, même avec ses parents, ça a été l'épreuve même avec ses frères pendant un temps. Ça a été terrible, ça a été terrible. Mais Jésus dit, mais vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Dans la parole de Dieu, il y a quelques exemples. Il y a un exemple type que vous allez tous souligner, me rappeler. Bon, il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête. Il y a un exemple type d'épreuve. C'est qui? Voilà, c'est Job. C'est Job. Hein? Job qui va tout perdre. Et Job, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une parabole. Cet homme était intègre, il était droit, il priait pour ses enfants et il va être frappé dans ses biens. Il va tout perdre. Il va tout perdre. Quand on voit un petit peu les cyclones qu'il y a eu ces derniers mois, ils ont tout perdu, les gens. Ils misaient tout dans une construction et puis, en l'espace de quelques heures, il n'y a plus rien eu. Et Job, il a tout perdu. Il a été frappé dans son corps. Il a perdu ses 10 enfants. À la fois... Je pense qu'il y a eu une tornade, quelque chose qui est tombé sur eux, ils sont décédés, les 10, dites. Hein, quand on perd un être cher, c'est terrible. Et pour bien le couler, parce que le diable était là derrière, hein, pour bien le couler, sa femme, au lieu de l'encourager, en principe, son vis-à-vis. Amen pour le vis-à-vis. Vous savez qui c'est le vis-à-vis? C'est l'épouse, hein? Quand l'époux est fatigué, c'est l'épouse qui encourage. Et quand l'épouse est fatiguée, c'est l'épouse. Mais là, il aurait pu compter sur son épouse. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, son épouse? Maudit. Elle était déjà rétrograde. Hein? Maudit Dieu et meurt. Tu demeures intègre, hein, dans tes propos, etc. Et qu'est-ce que Job dira? L'Éternel a donné, quand même. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel... Soit béni. Et c'est un homme qui a persévéré. Ensuite, Dieu lui a redonné 10 enfants, les plus beaux, etc. Il a réintégré sur tous ses biens, etc. Dieu l'a béni. Amen. Je pensais à un autre personnage aussi qu'on trouve dans le livre de Daniel. Et c'est qui? Dans le livre de Daniel, c'est Daniel. Voilà, c'est Daniel. Et regardez Daniel chapitre 6. Vous savez qu'il y a eu un décret qui avait été donné. Je résume, hein, pour aller un peu plus vite. Je vais pas regarder. Ah oui, il y a la montre là, mais il y a le contre-jour là. Je crois qu'il est 11h, c'est ça? Voilà. À quelle heure? Dis-moi. 5 minutes? C'est vrai? Voilà. Bon, 5 minutes. Ben, la suite, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Un décret a été donné. Parce qu'ils voulaient arrêter Daniel, les hommes du gouvernement, là, et ils ont dit qu'il fallait adorer que le roi, etc. Si quelqu'un se prosternait, adorait un autre que le roi, et il serait jeté dans la fosse aux lions. Et ils ont surpris Daniel. On va le lire. Je relisais, ça m'a fait du bien, simplement. Daniel, chapitre 6, peut-être que vous l'avez, verset 10, il est dit ceci. « Daniel, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il a été arrêté et il a été jeté dans la fosse aux lions. » Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, regardez ce qu'il dit, le témoignage de cet homme. « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et donc ils ont roulé la pierre, il y aurait tellement de choses à dire là, ils ont roulé la pierre. Le roi n'a pas fait venir de concubine, tourner, il a mal dormi, etc. Et verset 20, la nuit est passée. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il devait se dire, il ne doit plus rester grand-chose de Daniel. Daniel, serviteur de Dieu, du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dira, mais, dira au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, etc. etc. » Amen. Quelle que soit l'épreuve, et sans parler des amis de Daniel, dans les chapitres qui précèdent, où la chaudière a été chauffée 7 fois plus, et où on jette ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on les jette. Et quand ils vont, ceux qui les ont jetés, ils ont brûlé, nous dit le texte. Et ils vont regarder, ils vont trouver un quatrième. Moi, ça m'encourage. Et ça devrait nous encourager pour se projeter dans l'année même 2018, même si on passe par des temps difficiles, même si on passe par l'épreuve. Dans l'épreuve, on ne sera pas tout seul. Dans la fournaise, des fois, on l'entend dans le service, mais je suis dans la fournaise, il y a ceci, il y a cela, j'en peux plus. Mais même dans la fournaise, Jésus est là. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous, Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. On peut passer par des moments difficiles, mais le roi a reconnu que Daniel, c'était quelqu'un qui persévérait. Même s'il y avait eu le décret, il dit, moi, je continue à invoquer mon Dieu, et le Seigneur, lui, va me délivrer de cette épreuve. Et Dieu sait nous délivrer de l'épreuve, si on sait aussi se tenir devant lui et persévérer. Amen. Regardez, je voulais juste souligner ce passage important, Romains chapitre 5, concernant cette pensée. Romains chapitre 5, verset 3. On connaît bien ce passage. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point. Ça, on aime bien ce texte, nous, les pentecôtistes, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Même dans la difficulté, je continue à... Et entre nous, et c'est là qu'on voit les véritables chrétiens, hein, non ? Dans l'épreuve, quand on passe par des moments difficiles, on s'accroche, on s'attache au Seigneur plus que jamais, on n'abandonne pas, on persévère, et Dieu est là pour nous consoler, Dieu est là pour panser les plaies, Dieu est là pour nous guérir. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Je termine avec cet exemple. Alors, il arrive comme ça dans les notes, c'est cet aspect négatif aussi. J'ai trouvé un aspect négatif de la persévérance. C'est dans le livre des juges. Vous savez le dicton des juges ? Vous connaissez le dicton des juges ? À cette époque, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, c'est clair, quand on fait ce qu'on veut, on n'obtient rien. Même pas Jésus, il a fait. Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand on fait ce qu'on veut, eh bien, on récolte. Et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve cet exemple-là négatif dans le livre des juges. Juges chapitre 2, regardez. verset 19. Mais à la mort, et à chaque fois, dites, quand je relis ce texte, je dis, mais c'est pas possible. Ils étaient amnésiques, ils oubliaient. Regardez, mais à la mort du juge, verset 19, juge 2, 19, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Je ne sais pas, peut-être que ça s'adresse à quelqu'un, mais arrêtez. Ne persévérez pas dans ce domaine-là. Ils avaient des exemples. Ils criaient à Dieu. Dieu les mettait au large pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, suivant la durée du juge. Le juge mourait. Il n'y avait plus personne. Ils avaient tout oublié. Un petit peu comme le peuple. Hein, 430 ans d'esclavage. 3 jours après, ils arrivent devant Mara. Ils ont tout oublié. Il commence à murmurer, à lever le poing contre Dieu, à dire, mais si on avait su, eh bien on serait retourné en Égypte, il y avait le poisson, il y avait les ols, il y avait etc., etc. On oublie vite, non? Et c'est pas étonnant hein, que ça s'applique aux juges. Un exemple, je termine. Je termine avec cet exemple. Je ferme ma Bible, comme ça je ne regarde plus mes notes. Ok? L'exemple, il y en a plusieurs d'exemples, hein, qui ont persévéré dans le mal, dans l'endurcissement, dans l'entêtement. Un exemple dans le livre des juges, c'est celui de Samson. Je relisais l'histoire de Samson hier soir, juge à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, et Samson, c'était lui qui devait commencer à délivrer Israël, et sa maman était stérile, etc. Bon, elle enfante, et puis d'entrée, chapitre 14, il veut se marier. Et son père dit, mais regarde, le peuple, il y en a des... Non, lui, il a voulu prendre une femme des Philistins, et on sait ce qui s'est passé. Hein. Quand il a voulu la connaître, elle a été donnée à un autre, etc. Je relisais, l'histoire raconte de la colère qu'il a eue, il s'est endurci. Il a persévéré dans le mal. La colère qu'il a eue, il a attrapé 300 renards. 300 renards. Il était doué, c'était un sacré chasseur. Hein. Pour en attraper un, ils font des battues et des battues pour attraper. Lui, il en attrape 300, il met le feu dans le camp des Philistins. Marc, c'est ce qu'il faut faire, hein, excusez-moi. Il faut mettre le feu dans le camp des Philistins. Amen. On ne veut pas de Philistins, nous. Et il s'est endurci. Il s'est endurci. Ensuite, il a été avec une prostituée. Il a appris que la ville avait été entourée. Il s'est pas cassé la tête. Il a pris la porte de la ville. C'était pas des petites portes comme on a maintenant. Il l'a enlevé. Et ensuite, il a été avec Delila. Avec Delila, hein. Pas avec Dalida. Hein. Bon, c'est pas trop recherché, ça. Hein. Et elle va l'endormir. Une fois, si tu m'attaches avec des cordes fraîches, je serai comme le reste des hommes. Deux fois, si tu m'attaches avec des cordes neuves, je serai comme le reste des hommes. Si tu m'attaches avec maîtresse, je serai comme le reste des hommes. À chaque fois, elle endormait. Je ne sais pas ce qu'elle lui donnait, si elle lui donnait un Temesta ou un Tranxène pour l'endormir. Et quatrième fois, la Bible nous dit qu'il va lui ouvrir son cœur. Il a persévéré dans le mal. Il dira, si le rasoir passe sur ma tête, je serai comme le reste des hommes. Elle a endormi une quatrième fois. Et connaissez cette parole, on la connaît, nous les serviteurs de Dieu. Samson dira, je m'en sortirai comme les autres fois. Et la Bible dit qu'il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré. À l'époque, c'était comme ça. Hein, sous la loi, c'était comme ça, c'était ponctuel. Hein, l'Esprit saisissait les hommes. La grâce, c'est la plénitude au quotidien. J'entends pas d'amen. Amen. La grâce, c'est la plénitude au quotidien. Amen. Amen. Et le sort, ça a été quoi? C'est qu'on lui a crevé les yeux et qu'il tournait la meule et qu'il était la risée de tous. Bon, certes, on sait comment ça se finit. Dieu va lui faire grâce, mais quand même, la persévérance. Je pensais à Saül qui va s'endurcir, qui va persévérer. Hein, il ne va pas savoir patienter, et il ne va pas savoir attendre la venue de Samuel. Et Samuel dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en homme insensé, etc. Ensuite, il s'est érigé un monument. Enfin, ça a été la catastrophe. Il a fini de décapiter lui et toute sa famille. Voilà, encore un exemple de persévérance dans le mal, sans parler d'Absalom, qui veut se venger à tout prix de sa sœur Tamar, qui avait couché avec Amon, etc., etc. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Que Dieu nous garde, hein. Amen. Amen, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Nous devons persévérer dans la prière, nous devons persévérer dans la foi. Là, je résume, hein, je n'ai pas les notes sous les yeux, mais nous devons persévérer dans la foi, nous devons persévérer dans la prière, nous devons persévérer, Hébreux 13, 1, persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Et puis, je termine avec ce texte de Paul, 2 Timothée 4, 7. Allez, je vous écoute. Ah, je crois que ça apparaissait. Ça va apparaître. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu. Ça, si ça, ce n'est pas un texte qui parle de persévérance, 2 Timothée, ça, c'est fini, ça. Voilà. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La suite. Désormais. C'est un diesel. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, jusqu'au bout. Il dira même dans les versets qui précèdent, je sers déjà de libation, mais jusqu'au bout, j'ai combattu. Amen. Que Dieu soit béni. On termine par la prière, je laisse la place à votre pasteur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Ma prière, c'est que tu encourages dans cette nouvelle année mes frères, mes sœurs, l'Église de Gap, Seigneur, et ses annexes, que tu les encourages à aller jusqu'au bout, à te servir jusqu'à la fin. Bénis-les richement et bénis toute la suite de ces moments et que toute la gloire t'en revienne. Merci, Seigneur. Amen.